Chapitre 6. Et si la perquisition était déjà commencée? Et si en arrivant j'ai trouvé chez moi? Voici sa chambre. Tout est en ordre. Personne n'est venu. Nastasia elle-même n'a touché à rien. Mais seigneur, comment a-t-il pu laisser tantôt toutes ses affaires dans une pareille cachette? Il courut au coin, et introduisant sa main sous la tapisserie, il retira les bijoux qui se trouvèrent formés un total de 8 pièces. Il y avait 2 petites boîtes contenant des boucles d'oreilles ou quelque chose de ce genre, il ne remarqua pas bien quoi, puis 4 petits écrans marocains. Une chaîne de montre était simplement enveloppée dans un lambeau de journal. Il en était de même d'un autre objet qui devait être une décoration. Raskolnikov mit le tout dans ses poches en faisant son possible pour qu'elle ne parût pas trop gonflée. Il prit aussi la bourse, puis il sortit de sa chambre, dont il laissa cette fois la porte grande ouverte. Il marchait d'un pas rapide et ferme. Quoiqu'il se sentît tout brisé, la présence d'esprit ne lui faisait pas défaut. Il avait peur d'une poursuite. Il craignait que dans une demi-heure, dans un quart d'heure peut-être, on ne commençât une instruction contre lui. Par conséquent, il fallait faire disparaître ou plutôt les pièces de conviction. Il devait s'acquitter de cette tâche pendant qu'il lui restait encore un peu de force et de sang-froid. Mais où aller ? Cette question était déjà résolue depuis longtemps. « Oh, je jetterai tout dans le canal et du même coup l'affaire tombera à l'eau. » Voilà ce qu'il avait décidé déjà la nuit précédente, dans ces moments de délire où plusieurs fois il avait eu envie de se lever et d'aller tout jeter bien vite. Mais l'exécution de son beau jet était proche aussi facile. Pendant une demi-heure, peut-être davantage, il erra sur le quai du canal Catherine. Il examinait, au fur et à mesure qu'il les rencontrait, les divers escaliers conduisant au bord de l'eau. Malheureusement, toujours quelque obstacle s'opposait à la réalisation de son dessein. Ici, c'était un bateau de blanchisseuse, là, des canots amarrés à la rive. D'ailleurs, le quai était couvert de promeneurs qui n'auraient pas manqué de remarquer un fait aussi insolite. Un homme ne pouvait, sans éveiller des soupçons, descendre exprès au bord de l'eau, s'y arrêter et jeter quelque chose dans le canal. Et si, comme cela était à prévoir, les écrins surnageaient au lieu de disparaître sous l'eau, chacun s'en apercevrait. Déjà même Raskolnikov se croyait l'objet de l'attention générale. Il se figurait que tout le monde s'occupait de lui. Finalement, le jeune homme se dit qu'il ferait peut-être mieux d'aller jeter ses objets dans la Neva. Là, en effet, il y avait moins de foule sur le quai. Il risquerait moins d'être remarqué et, considération importante, il serait plus loin de son quartier. Mais comment se fait-il ? Se demanda tout à coup avec étonnement Raskolnikov. Comment se fait-il que depuis 1 heure, je sois là à errer anxieusement dans des lieux qui ne sont pas sûrs pour moi? Les objections qui se présentent maintenant à mon esprit, est-ce que je n'aurais pas dû me les faire plus tôt? Si je viens de perdre 1 demi-heure à chercher l'accomplissement d'un projet insensé, c'est uniquement parce que ma résolution a été prise dans un moment de délire. Il devenait singulièrement distrait et oublieux, et il le savait. Décidément, il fallait se hâter. Il se dirigea vers la Neva par la perspective de V. Mais, chemin faisant, une autre idée lui vint tout à coup. Mais pourquoi aller à la Neva? Et pourquoi jeter ces objets à l'eau? Ne vaudrait-il pas mieux aller quelque part, bien loin, dans une île par exemple? Là, je chercherais un endroit solitaire, un bois, et j'enterrerai tout cela au pied d'un arbre que j'aurai soin de remarquer attentivement pour pouvoir le reconnaître plus tard. » Quoiqu'il se sentît alors peu capable de prendre une détermination judicieuse, cette idée lui parut pratique et il résolut de la mettre à exécution. Mais le hasard en décida autrement. Comme Raskolnikov débouchait de la perspective de V sur la place, il remarqua soudain à gauche l'entrée d'une cour qui était de tous côtés entourée de grands murs et dont le sol était couvert d'une poussière noire. Au fond se trouvait un hangar qui dépendait évidemment d'un atelier quelconque. Il devait y avoir là un établissement de menuiserie, de sellerie ou quelque chose de semblable. Ne voyant personne dans la cour, Raskolnikov franchit le seuil de la porte et, après avoir promené ses regards autour de lui, se dit qu'aucun lieu ne lui offrirait plus de facilité pour l'accomplissement de son projet. Justement, contre le mur, ou plutôt la clôture en bois qui bordait la rue à gauche de la porte, était adossée une énorme pierre non équarrie du poids de 60 livres environ. Et de l'autre côté de la clôture, c'était le trottoir. Et le jeune homme entendit le bruit des passants toujours assez nombreux en cet endroit. Mais du dehors, personne ne pouvait l'apercevoir. Il aurait fallu pour cela que quelqu'un pénétrât dans la cour, ce qui du reste n'avait rien d'impossible, aussi devait-il se hâter. Il se courba vers la pierre, la saisit des deux mains par le haut, et en réunissant toutes ses forces, parvint à la renverser. Le sol, à l'endroit qu'elle occupait, s'était légèrement déprimé. Il jeta aussitôt dans le creux tout ce qu'il avait en poche. La bourse fut mise par-dessus les bijoux, néanmoins le creux ne se trouva pas entièrement comblé. Ensuite, il releva la pierre et réussit à la replacer juste où elle était auparavant. Tout au plus paraissait-elle un peu exhaussée, mais il tassa avec son pied de la terre contre les bords et ne pouvait plus rien remarquer. Alors il sortit et se dirigea vers la place. Comme tantôt au bureau de police, une joie intense, presque impossible à supporter, s'empara encore de lui pour un instant. Enterrer les pièces de conviction! À qui l'idée viendra-t-elle d'aller chercher sous cette pierre? Elle est peut-être là depuis qu'on a bâti la maison voisine, et Dieu sait combien de temps elle y restera encore. Oh, et quand même, on découvrirait ce qui est caché là-dessous. Qui peut soupçonner que c'est moi qui l'ai caché? Tout est fini, il n'y a pas de preuve. Et il se mit à rire. Oui, il se rappela plus tard qu'il avait traversé la place en riant tout le temps d'un petit rire nerveux, muet, prolongé. Mais quand il arriva au boulevard de K, cette hilarité cessa subitement. Toutes ses pensées tournaient maintenant autour d'un point principal dont lui-même s'avouait toute l'importance. Il sentait qu'à présent, pour la première fois depuis 2 mois, il restait en tête à tête avec cette question. « Ah, mais que le diable emporte tout cela !» se dit-il dans un brusque accès de colère. « Allons, le vin est tiré, il faut le boire !» Peste soit de la nouvelle vie. Oh, que cela est bête, Seigneur. Et que de mensonges j'ai débités. Que de bassesses j'ai commises aujourd'hui. Quelle honteuse platitude. Tantôt pour me concilier la bienveillance de l'exécrable Petrovitch. Mais du reste, peu m'importe. Je me moque de tous et des lâchetés que j'ai pu commettre. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, pas du tout. Il s'arrêta soudain, dérouté, abasourdi, par une question nouvelle, tout à fait inattendue et excessivement simple. Si réellement tu as agi dans toute cette affaire en homme intelligent et non en imbécile, si tu avais un but nettement tracé et fermement poursuivi, comment se fait-il donc que jusqu'ici tu n'aies pas même regardé ce qu'il y a dans la bourse? Et comment en es-tu encore à ignorer ce que te rapporte l'acte dont tu n'as pas craint d'assumer le danger et l'infamie? Ne voulais-tu pas tout à l'heure jeter à l'eau cette bourse et ces bijoux auxquels tu as à peine donné un coup d'œil? Mais à quoi cela ressemble-t-il? Arrivé sur le quai de la petite Neva, dans Vassili Ostrov, il s'arrêta brusquement près du pont. C'est ici, c'est dans cette maison qu'il demeure, pensa-t-il. Qu'est-ce que cela veut dire? Il paraît que mes jambes m'ont conduit d'elles-mêmes au logis de la Zousmirine. Encore la même histoire que l'autre jour. Mais c'est très curieux. Je marchais sans but et le hasard m'a amené ici. N'importe, mais je disais avant-hier que j'irai le voir après cela le lendemain. Eh bien, je vais le voir. Est-ce que maintenant je ne pourrais plus faire une visite? Il monta au cinquième étage où habitait son ami. Ce dernier était dans sa chambre en train d'écrire et il alla l'ouvrir lui-même. Les deux jeunes gens ne s'étaient pas vus depuis 4 mois. Vêtus d'une robe de chambre toute déchirée, les pieds nus dans des pantoufles, les cheveux ébouriffés, Razoudmikhine n'était ni rasé ni lavé. L'étonnement se peignit sur son visage. « Tiens, c'est toi !» s'écria-t-il en examinant des pieds à la tête le nouveau venu. Puis il se tut et commença à siffler. Oh, « Est-il possible que tes affaires aillent si mal? Le fait est que tu surpasses encore en élégance ton serviteur. » continua-t-il après avoir jeté les yeux sur les haillons de son camarade. « Mais assieds-toi donc, je vois que tu es fatigué. » Mais quand Raskolnikov se fut laissé tomber sur un divan turc, recouvert de toiles cirées et encore plus piteux que le sien, Razoubikhin s'aperçut tout à coup que son visiteur était souffrant. « Ah, dit, tu es sérieusement malade, sais-tu cela ?» Il voulut lui tâter le pouls. Raskolnikov retira vivement sa main. « Oh, c'est inutile, dit-il, je suis venu. Voici pourquoi. Je n'ai pas de leçons. Je voulais, enfin, dirais-je, je n'ai pas du tout besoin de leçons. C'est une chose, tu radotes, observa Razoubikhin, qui considérait attentivement son ami. « Non, je ne radote pas, » répondit en se levant Raskolnikov. Lorsqu'il était monté chez Razoubikhin, il n'avait pas pensé qu'il allait se trouver face à face avec son ami. Or, un tête-à-tête avec qui que ce fût était en ce moment la chose du monde qui lui répugnait le plus. Gonflé de fiel, il faillit étouffer de colère contre lui-même, dès qu'il eut franchi le seuil de la Razoubikhine. « Adieu !» dit-il brusquement, il se dirigea vers la porte. « Ben, reste donc, tu es drôle !»« Non, c'est inutile !» répéta-t-il en dégageant sa main que son ami avait saisie. « Alors, pourquoi diable es-tu venu? Est-ce que tu as perdu l'esprit? Voyons, c'est presque une offense que tu me fais !» « Oh, je ne te laisserai pas partir comme cela. »« Eh bien, écoute, je suis venu chez toi parce que je ne connais que toi qui puisse m'aider à commencer, parce que tu es le meilleur que tous, c'est-à-dire plus intelligent et que tu peux apprécier. Mais maintenant, je vois qu'il ne me faut rien. Ah non, tu n'entends rien du tout. » « Oh, je n'ai besoin ni des services, ni des sympathies de personne. Je me suffis à moi-même. Qu'on me laisse en repos. » Ah, mais attends une minute, ramoneur. Mais tu es tout à fait fou. Tu auras beau dire, c'est mon opinion. Vois-tu, je n'ai pas de leçon non plus, mais je m'en moque. J'ai un libraire, Herunikfaf, qui dans son genre est une leçon. Je ne troquerai pas contre 5 leçons chez les marchands. Il publie de petits livres sur les sciences naturelles, et cela s'enlève comme du pain. Le tout est de trouver les titres. Tu prétendais toujours que j'étais bête. Eh bien, mon ami, il y a plus bête que moi. Mon éditeur, qui personnellement ne sait ni A ni B, s'est mis au temps du jour. Moi, bien entendu, je l'encourage. Voilà, par exemple, ces 2,5 feuillets de texte allemand. C'est, selon moi, du charlatanisme le plus sot. L'auteur examine la question de savoir si la femme est un homme. Naturellement, il tient pour l'affirmative et le demande d'une façon triomphante. Mais je traduis cette brochure pour Herouvimrov, qui la juge d'actualité dans un moment où l'on s'occupe de la question des femmes. Nous ferons 6 feuilles avec les 2,5 feuillets de l'original allemand. Nous ajouterons un titre ronflant qui prendra une demi-page et nous vendrons cela à 50 kopecks. Ce sera un succès. Ma traduction m'est payée à raison de 6 roubles par feuille, ce qui fait pour le tout 15 roubles et j'en ai touché 6 d'avance. Allons, veux-tu traduire la seconde feuille? Si oui, emporte le texte, prends des plumes, du papier. Tout cela est aux frais de l'État. Permets-moi de t'offrir 3 roubles. Comme j'ai moi-même reçu 6 roubles d'art pour la première et la seconde feuille, c'est 3 roubles qui te reviennent et tu en auras encore autant à toucher quand ta traduction sera finie. Et surtout, ne va pas te figurer que tu m'as quelque obligation pour cela. Au contraire, dès que tu es rentré, j'ai pensé tout de suite à l'utiliser. D'abord, je suis pas fort sur l'orthographe. Et en second lieu, j'ai une connaissance pitoyable de l'allemand, en sorte que le plus souvent, j'invente au lieu de traduire. Je me console par la pensée que j'ajoute ainsi des beautés au texte, mais qui sait, ça me fait peut-être illusion. Allez, bien, c'est dit, tu acceptes ? Raskolnikov prit en silence les feuillets de la brochure allemande, ainsi que les 3 roubles. Puis il sortit, sans proférer une parole. Razoumikhine le suivit d'un regard étonné. Mais, arrivé au premier coin de rue, Raskolnikov revint brusquement sur ses pas et remonta chez son ami. Il déposa sur la table les pages de la brochure et les 3 roubles. Après quoi, il sortit de nouveau sans dire un mot. « Mais c'est de l'aliénation mentale !» vociféra Razoumikhine à la fin, pris de colère. « Mais quelle comédie joues-tu là? Même moi, tu me fais sortir de mon calme. Et pourquoi donc es-tu venu alors, diable ?»« Moi, j'ai pas besoin de traduction, » murmura Raskolnikov, déjà en train de descendre l'escalier. « Alors, de quoi, diable, as-tu besoin ?» lui cria sur le palier Razoumikhine. Le visiteur continuait à descendre en silence. Hey, « Hé, dis donc, où demeures-tu ? » Cette question n'obtint pas de réponse. « Eh bien, va-t'en au diable !» Mais Raskolnikov était déjà dans la rue. Le jeune homme arriva chez lui vers le soir, sans qu'il eût pu dire par où il était revenu. Tremblant de tout son corps comme un cheval harassé, il se déshabilla, s'étendit sur le divan et, après avoir placé son manteau sur lui, s'endormit tout de suite. L'obscurité était déjà complète lorsqu'il fut réveillé par un bruit terrible. Oh, quelle scène affreuse se passait, mon Dieu! C'étaient des cris, des gémissements, des grincements de dents, des larmes, des coups, des injures, comme il n'en avait jamais entendu ni vu. Épouvanté, il s'assit sur son lit. sa frayeur croissait de minute en minute, car à chaque instant le retentissement des coups frappés, les plaintes, les invectives arrivaient plus nettement à ses oreilles. Et voilà que, à son extrême surprise, il reconnaissait tout à coup la voix de sa logeuse. La pauvre femme geignait, suppliait d'un ton dolent. Impossible de comprendre ce qu'elle disait, mais sans doute elle demandait qu'on cessât de la battre, car on la battait impitoyablement dans l'escalier. Le brutal qui la maltraitait ainsi vociférait d'une voix sifflante, étranglée par la colère, de sorte que ses paroles étaient elles aussi inintelligibles. Soudain, Raskolnikov se mit à trembler comme une feuille. Il venait de reconnaître cette voix. C'était celle d'Ilia Petrovitch. « Ilia Petrovitch est ici, et il bat la logeuse. Il lui donne des coups de pied, il lui cogne la tête contre les marches. Mais c'est clair, je ne me trompe pas. Le bruit des coups, les cris de la victime indiquent bien de quelle voie de fait il s'agit. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Le monde est-il sans dessus-dessous ? » De tous les étages, on accourait sur l'escalier. Des voix, des exclamations se faisaient entendre. Des gens montaient, des portes étaient violemment heurtées ou fermées avec fracas. Mais pourquoi donc? Mais comment cela est-il possible? Répétait-il, croyant sérieusement que la folie prenait possession de son cerveau. Mais non, il percevait trop distinctement ces bruits. Eh bien alors, s'il en est ainsi, on va venir chez moi, car tout cela, assurément, c'est pour la chose d'hier. Oh, Seigneur ! Il voulut s'enfermer au crochet, mais il n'eut pas la force de lever le bras. D'ailleurs, il sentait que cela ne servirait à rien. La frayeur glaçait son âme. Après avoir duré 10 bonnes minutes, tout ce vacarme cessa peu à peu. La patronne gémissait. Ilia Petrovitch continuait à vomir des injures et des menaces. À la fin, lui-même se tut, du moins on ne l'entendit plus. « Est-ce qu'il serait parti, Seigneur ?»« Ah oui, voilà que la patronne s'en va aussi. Elle pleure et elle gémit encore. La porte de sa chambre se referme bruyamment. » Les locataires quittent l'escalier pour regagner leurs appartements respectifs. Ils poussent des « ah !», ils discutent, ils s'appellent les uns les autres, tantôt criant, tantôt parlant à voix basse. Ils devaient être fort nombreux. La maison tout entière, où peu s'en faut, était accourue. Mais mon Dieu, mais est-ce que tout cela est possible? Mais pourquoi? Pourquoi est-il venu ici? Raskolnikov tomba sans force sur le divan, mais il ne put plus fermer l'œil. Pendant une demi-heure, il resta en proie à une épouvante telle qu'il n'en avait jamais éprouvé de semblable. Tout à coup, une vive lumière éclaira sa chambre. C'était Nastassia qui entrait avec une bougie et une assiette de soupe. La servante le regarda attentivement, et, s'étant convaincue qu'il ne dormait pas, elle posa sa bougie sur la table, puis elle commença à se débarrasser de ce qu'elle avait apporté, du pain, du sel, une assiette, une cuillère. « Je crois que t'as pas mangé depuis hier, tu traînes sur le pavé toute la journée avec la fièvre dans le corps. » « Nastassia, pourquoi t'ont battu la patronne ?» Elle le regarda fixement. « Et qui a battu la patronne ?»« Ben, tout à l'heure, il y a une demi-heure. Ilia Petrovitch, l'adjoint du commissaire de police, l'a battu sur l'escalier. Mais pourquoi l'a-t-il ainsi maltraité? Et pourquoi est-il venu ?» Nastasia fronça le sourcil sans rien dire et examina longuement le locataire. Ce regard inquisiteur le troubla. « Nastasia, pourquoi gardes-tu le silence ? » demanda-t-il enfin d'une voix timide et faible. « Mais c'est le sang ? » murmura-t-elle comme se parlant à elle-même. « Le sang ! Quel sang ! » balbutia-t-il, devenu pâle, et il se recula contre le mur. Nastasia continuait à l'observer silencieusement. « Personne n'a battu la patronne ? » reprit-elle ensuite d'un ton péremptoire. Il la regarda, respirant à peine. « Mais j'ai entendu moi-même, je ne dormais pas. J'étais assis sur le divan, » dit-il d'une voix plus craintive que jamais. « J'ai écouté longtemps. L'adjoint du commissaire de police est venu. De tous les logements, tout le monde est accouru sur l'escalier. Mais personne n'est venu. Mais c'est le sang qui crie en toi. Quand il n'a pas d'issue et qu'il commence à former des caillots, alors on en a berlu. Tu vas manger. » Il ne répondait pas. Nastasia ne quittait point la chambre et le regardait toujours d'un œil curieux. « Oh, donne-moi à boire, Nastasiushka !» Elle descendit et revint 2 minutes après, rapportant de l'eau dans un petit pot d'argile. Mais à partir de ce moment s'arrêtaient les souvenirs de Raskolnikov. Il se rappelait seulement qu'il avait lampé une gorgée d'eau froide. Ensuite, il s'était évanoui. Toutefois, tant que dura sa maladie, jamais il ne fut tout à fait privé de sentiments. C'était un état fiévreux, avec délire et demi-inconscience. Plus tard, il se rappela beaucoup de choses. Tantôt, il lui semblait que plusieurs individus étaient réunis autour de lui, voulaient le prendre et l'emporter quelque part, discutaient vivement et se querellaient à son sujet. Tantôt, il se voyait tout à coup seul dans sa chambre. Tout le monde était parti. On avait peur de lui. De temps à autre seulement, on ouvrait la porte pour l'examiner à la dérobée. Les gens le menaçaient, tenaient conseil entre eux, riaient, le mettaient en colère. Il constatait souvent la présence de Nastasia à son chevet. Il remarquait aussi un homme qui devait lui être bien connu, mais... qui était-ce ? Jamais il ne parvenait à mettre un nom sur cette figure, et cela le désolait au point de lui arracher des larmes. Parfois, il se figurait être alité depuis un mois déjà. À d'autres moments, tous les incidents de sa maladie lui paraissaient se produire dans une seule et même journée. Mais cela, il l'avait absolument oublié. À chaque instant, il est vrai, il se disait qu'il avait oublié une chose dont il aurait dû se souvenir. Il se tourmentait, faisait de pénibles efforts de mémoire, gémissait et devenait furieux ou était pris d'une terreur indicible. Alors il se dressait sur son lit, voulait s'enfuir, mais toujours quelqu'un le retenait de force. Ses crises l'affaiblissaient et se terminaient par l'évanouissement. À la fin, il recouvra tout à fait l'usage de ses sens. Il était alors 10 heures du matin. Quand le temps était beau, le soleil entrait toujours dans la chambre à cette heure-là, plaquant une longue bande de lumière sur le mur de droite et éclairant le coin près de la porte. Nastasia se trouvait devant le lit du malade avec un individu qu'il ne connaissait pas du tout et qu'il observait très curieusement. C'était un jeune garçon à la barbe naissante, vêtu d'un caftan et paraissant être un Nartelschlik. Par la porte entrebâillée, la logeuse regardait Raskolnikov. Alors Raskolnikov se souleva un peu. « Qui est-ce, Nastasia ? demanda-t-il en montrant le jeune homme. « Oh tiens, il est revenu à lui !» dit la servante. « Oh, il est revenu à lui !» fit à son tour l'Altelschnik. À ces mots, la logeuse ferma la porte et disparut. Sa timidité lui rendait toujours pénible les entretiens, les explications. Cette femme âgée de 40 ans avait des yeux et des sourcils noirs, un embonpoint prononcé et somme toute un extérieur fort agréable. Bonne, comme le sont les personnes grasses et paresseuses, elle était avec cela excessivement puribonde. « Qui êtes-vous ? » continua à demander Raskolnikov en s'adressant cette fois à la Cheltenichnik. Mais en ce moment, la porte se rouvrit et livra passage à Razoum Mikhin, qui pénétra dans la chambre en se courbant un peu à cause de sa haute taille. « Quelle cabine de vaisseau ! » s'écria-t-il en entrant. « Je me cogne toujours la tête contre le plafond. » Et on appelle cela un logement. Eh bien, mon ami, tu as recouvert tes esprits, à ce que m'a appris tout à l'heure Pashenka. Oui, il vient de reprendre ses sens, dit Nastasia. Il vient de reprendre ses sens, répéta comme un écho l'Altelschnik avec un petit sourire. Mais vous-même, qui êtes-vous ? Lui demanda brusquement Razouchmichkin. Oh, moi, voyez-vous, je m'appelle Razouchmichkin, je suis étudiant, fils de gentilhomme, et monsieur est mon ami. Alors, vous, dites-moi qui vous êtes. Je suis employé chez le marchand Chelopaïev, et je viens ici pour affaires. Asseyez-vous sur cette chaise. Se disant, Razouchmichkin prit lui-même un siège et s'assit de l'autre côté de la table. « Oh, mon ami, tu as bien fait de revenir à toi, » poursuivit-il en s'adressant à Raskolnikov. « Depuis 4 jours, tu n'as pour ainsi dire rien bu ni rien mangé. À peine prenais-tu un peu de thé qu'on te donnait à la cuillère. Je t'ai amené 2 fois, Zosimov. Te souviens-tu de Zosimov ? Il t'a examiné attentivement, il a déclaré que tout cela n'était rien. « Ta maladie, a-t-il dit, est un simple affaiblissement nerveux, résultat d'une mauvaise alimentation, mais elle n'a aucune gravité. Un fameux gaillard, Zosimov, il traite déjà supérieurement. « Mais je ne veux pas abuser de votre temps, » ajouta la Zosmichkin en s'adressant de nouveau à l'Artelschnik. « Veuillez faire connaître le motif de votre visite. Remarque, Rodia, qu'on vient déjà pour la seconde fois de chez eux. Seulement la première fois, ce n'était pas celui-ci. Mais qui est-ce qui est venu ici avant vous ?»« Ah, vous voulez sans doute parler de celui qui est venu avant-hier. Ah, c'est Alexis Semenovitch. Il est aussi employé chez nous. Il a la langue mieux pendue que vous. » « N'est-ce pas votre avis ?»« Oh oui, c'est un homme plus capable. »« Modeste, il y a une éloge, alors continuez. »« Ben voici, à la demande de votre maman, Afanas Ivanovitch Varjouchkin, dont vous avez sans doute entendu parler plus d'une fois, vous envoyez de l'argent que notre maison est chargée de vous remettre. » Commença l'Artelschnik en s'adressant directement à Raskolnikov. « Si vous avez votre connaissance, veuillez prendre livraison de ces 35 roubles que Semen Semenovitch a reçus pour vous d'Afanas Ivanovitch, agissant à la demande de votre maman. Or, on a dû vous donner avis de cet envoi. »« Ah oui, je me rappelle. Vachushin, dit Raskolnikov d'un air pensif. « Voulez-vous me donner un reçu ?»« Oh, il va signer. Vous avez là votre livre ?» dit la Zouzouichine. « Oui, voici. Donnez ici. » Allons, Rodia, un petit effort. Tâche de te mettre sur ton séant. Je te soutiendrai. Prends la plume et dépêche-toi d'écrire ton nom, car, mon ami, à notre époque, l'argent, c'est le miel de l'humanité. Oh, je n'en ai pas besoin, dit Raskolnikov en repoussant la plume. Comment tu n'en as pas besoin? Bon, je signerai pas. Mais il faut bien que tu donnes un reçu. J'ai pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin d'argent. Ah, pour cela, mon ami, tu mens. J'en suis témoin. Ne vous inquiétez pas, je vous prie, il ne sait ce qu'il dit. Il est encore reparti pour le pays des rêves. Du reste, cela lui arrive même à l'état de veille. Vous êtes un homme de sens, nous allons guider sa main et il signera. Allons, venez à mon aide. Ah, oh, mais du reste, je puis repasser. Non, 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 pourquoi vous déranger? Vous êtes un homme raisonnable. Allons, Rodia, ne retiens pas plus longtemps ce visiteur. Tu vois qu'il attend. Et sérieusement, Rasmoumikhin s'apprêtait à conduire la main de Raskolnikov. « Laisse, je ferai cela moi-même, » dit ce dernier. Il prit la plume et écrivit son reçu sur le livre. L'artelchik remit l'argent et se retira. « Bravo, et maintenant, mon ami, veux-tu manger ?» « Oui, » répondit Raskolnikov. « Il y a de la soupe ?»« Oh, il en reste d'hier, » répondit Nastasia, qui n'avait pas quitté la chambre durant toute cette scène. « De la soupe au riz aux pommes de terre ?»« Oui, j'en étais sûr. Allez, va chercher la soupe et donne-nous du thé. »« Bien ?» Raskolnikov regardait tout avec une profonde surprise et une frayeur hébétée. Il résolut de se taire et d'attendre ce qui arriverait. « Oh, il me semble que je n'ai plus le délire, » pensait-il. « Tout cela m'a l'air d'être bien réel. » Au bout de 10 minutes, Nastasia revint avec le potage et annonça qu'on allait avoir le thé. Avec la soupe se montrèrent 2 cuillères, 2 assiettes et tout un service de table, sel, poivre, moutarde pour manger avec le bœuf, etc. Le couvert n'avait pas été aussi bien mis depuis longtemps. La nappe même était propre. « Nastasiushka, » dit Razumikhin, « Praskovi Pravlovna ne ferait pas de mal... « Oh, de nous envoyer 2 petites bouteilles de bière. Nous en viendrons bien à bout. »« Tu le laisseras manquer de rien, toi, » marmotta la servante. Et elle alla faire la commission. Le malade continuait à tout observer avec une attention inquiète. Pendant ce temps, Razumikhin était venu s'asseoir à côté de lui sur le divan. Avec une grâce d'ours, il tenait appuyé contre son bras gauche la tête de Raskolnikov, qui n'avait aucun besoin de ce secours, tandis que de la main droite, il lui portait à la bouche une cuillerée de soupe, après avoir soufflé dessus plusieurs fois pour que son ami ne se brûlât pas en l'avalant. Pourtant, le potage était presque froid. Raskolnikov en absorba avidement 3 cuillerées, mais ensuite Razumikhin suspendit brusquement son office, déclarant que pour le surplus, il fallait consulter Zosimov. Sur ces entrefaites, Anastasia porta les 2 bouteilles de bière. « Veux-tu du thé ?»« Oui. »« Va vite chercher le thé, Anastasia, car en ce qui concerne ce breuvage, je m'est avis que la permission de la faculté n'est pas nécessaire. Mais voilà la bière. » Il alla se rasseoir sur sa chaise, approcha de lui la soupière ainsi que le bœuf, et se mit à dévorer avec autant d'appétit que s'il n'avait pas mangé depuis 3 jours. Maintenant, ami Rodien, je dîne ainsi chez vous tous les jours, murmurait-il la bouche pleine. C'est Pachenka, ton aimable logeuse, qui me régale de la sorte. Elle a beaucoup de considération pour moi. Naturellement, je me laisse faire. À quoi bon protester? Ah, mais voilà Nastasia qui arrive avec le thé. Elle est expéditive. Nastenka, veux-tu de la bière? Est-ce que tu te moques de moi? Mais du thé, tu en prendras bien. Ah, du thé, oui. Sers-toi, ou plutôt non, attends, je vais te servir moi-même. Mets-toi à table. Entrant aussitôt dans son rôle d'amphitryon, il remplit successivement deux tasses, puis il laissa là son déjeuner et alla se rasseoir sur le divan. Comme tout à l'heure, quand il s'était agi de la soupe, ce fut encore avec les attentions les plus délicates que Razoumikhin fit boire le thé à Raskolnikov. Ce dernier se laissait dorloter sans mot dire, bien qu'il se sentît parfaitement en état de rester assis sur le divan sans le secours de personne et de tenir en main la tasse ou la cuillère et peut-être même de marcher. Mais avec un machiavélisme étrange et presque instinctif, il s'était souvent avisé de feindre momentanément la faiblesse, de simuler même au besoin une certaine inintelligence, tout en ayant l'œil et l'oreille au guet. Du reste, le dégoût fut plus fort que sa résolution. Après avoir avalé 10 cuillerées de thé, le malade dégagea sa tête par un mouvement brusque, repoussa capricieusement la cuillère et se laissa retomber sur son oreiller. Oh, ce mot n'était plus une métaphore. Raskolnikov avait maintenant à son chevet un bon oreiller de duvet avec une taie propre. Ce détail, qu'il avait aussi remarqué, n'était pas sans l'intriguer. Il faut que Pachenka nous envoie aujourd'hui même de la gelée de framboise pour faire de la boisson à Rodia, dit Razoumikhin en se remettant à sa place et en reprenant son repas interrompu. Et où prendra-t-elle de la framboise? Demanda Nastasia, qui, tenant sa soucoupe sur ses seins lois écartés, faisait glisser le thé dans sa bouche à travers le sucre. Oh, ma chère, elle prendra de la framboise dans une boutique. Vois-tu, Rodia, il s'est passé ici toute une histoire dont tu n'as pas connaissance. Lorsque tu t'es sauvé de chez moi comme un voleur, sans me dire où tu demeurais, j'en ai été si fâché que j'ai résolu de te retrouver pour tirer de toi une vengeance exemplaire. Et dès le jour même, je me suis mis en campagne. Ce que j'ai couru, ce que j'ai questionné. J'avais oublié ton adresse actuelle, et cela pour une bonne raison, je ne l'avais jamais su. Quant à ton ancien logement, je me rappelais seulement que tu habitais aux cinq coins, mais au Halmov. Je me lance sur cette piste, je découvre la maison Harlamov, qui en fin de compte n'est pas la maison Harlamov, mais la maison Bourg. Voilà comme on s'embrouille parfois dans les noms propres. J'ai été furieux. Je vais le lendemain au bureau des adresses, ne comptant guère sur le résultat de cette démarche. Eh bien, figure-toi qu'en 2 minutes, on m'a donné l'indication de ton domicile. Tu es inscrit là. Je suis inscrit. Oh, je crois bien. Et ils n'ont pas pu donner l'adresse du général Kobelev à quelqu'un qui la demandait. Enfin, j'abrège. À peine suis-je arrivé ici que j'ai été initié à toutes tes affaires. Oui, mon ami, à toutes. Je sais tout, Nastasia te le dira. J'ai fait la connaissance de Nikodim Fomitch. On m'a montré Ilya Pietrovitch. Je suis entré en rapport avec le Dvornik, avec Alexandre Grigorievitch Zametov, le chef de la chancellerie, Et enfin, avec Pashenka elle-même, ça a été le bouquet. Tu peux demander, Anastasia. Tu l'as enjolé, murmura la servante avec un sourire finaud. Ah, le malheur, mon cher, c'est que dès le début, tu t'y es mal pris. Il fallait pas procéder ainsi avec elle. Son caractère est le plus bizarre. Du reste, nous parlerons plus tard, ce n'est le caractère. Mais comment, par exemple, as-tu pu l'amener à te couper les vivres? Et cette lettre de change, il fallait vraiment que tu fusses fou pour la souscrire. Et ce projet de mariage du vivant de sa fille Nathalie Egorovna. Oh, je suis au courant de tout. Je vois d'ailleurs que je touche là une corde délicate et que je suis un âne, pardonne-moi. Mais à propos de sottise, ne trouves-tu pas que Praskovy Pavlovna est moins bête qu'on ne pourrait le supposer à première vue, hein? Oh, oui, balbutia en regardant de côté Raskolnikov. Il ne comprenait pas qu'il aurait mieux valu soutenir la conversation. N'est-ce pas? S'écria Razoumikhin. Mais elle n'est pas non plus une femme intelligente, hein? C'est un type tout à fait particulier. Oh, je t'assure, mon ami, que je m'y perds. Elle va avoir 40 ans, elle n'en avoue que 36. Elle y est pleinement autorisée. Du reste, je te le jure, je ne puis guère la juger qu'au point de vue intellectuel, car nos relations sont ce qu'il y a de plus singulier au monde. Je n'y comprends rien. Pour revenir à nos moutons, elle a vu que tu avais quitté l'université, que tu étais sans leçon et sans vêtements. D'autre part, depuis la mort de sa fille, elle n'avait plus lieu de te considérer comme un des siens. Dans ces conditions, l'inquiétude l'a prise. Et toi, de ton côté, au lieu de conserver avec elle les rapports d'autrefois, tu vivais retiré dans ton coin. Voilà pourquoi elle a voulu te faire partir. Elle y songeait depuis longtemps, mais tu lui avais donné une lettre de change, et de plus tu lui assurais que ta maman paierait. Oh, j'ai fait une bassesse en disant cela. Ma mère est elle-même presque réduite à la mendicité. Je mentais pour que l'on continuât à me loger et à me nourrir, déclara Raskolnikov d'une voix nette et vibrante. Oui, tu avais parfaitement raison de parler ainsi. Ce qui a tout gâté, c'est l'intervention de M. Tchebarov, conseiller de cour et homme d'affaires. Sans lui, Pashenka n'aurait rien entrepris contre toi. Elle est bien trop timide pour cela. Mais l'homme d'affaires, lui, n'est pas timide. Et tout d'abord, naturellement, il a posé la question « Le signataire de la lettre de change est-il solvable ?» Réponse « Oui, car sa maman, bien qu'elle ne possède qu'une pension de 125 roubles, se priverait de manger pour tirer rognon d'embarras, et il a une sœur qui se vendrait comme esclave pour son frère. » Alors M. Tchebarov s'est réglé là-dessus. « Ah, pourquoi t'agites-tu? À présent, mon ami, j'ai compris ton arrière-pensée. Tu n'avais pas tort de t'épancher dans le sein de Pashenka au temps où elle pouvait voir en toi un futur gendre. Mais voilà, tandis que l'homme honnête et sensible se laisse aller aux confidences de l'homme, l'homme d'affaires, lui, les recueille et en fait son profit. Bref, elle a passé son billet en paiement à ce Tchebarov qui ne s'est pas gêné pour te mener rondement. Lorsque j'ai su tout cela, je voulais, pour l'acquis de ma conscience, traiter aussi l'homme d'affaires par l'électricité, mais sur ces entrefaites, l'harmonie s'est établie entre Pashenka et moi, et j'ai fait arrêter la procédure en répondant de ta dette. Tu entends, mon ami, je me suis porté garant pour toi. On a fait venir Tchebalov, on lui a mis 10 roubles dans la bouche, et il a rendu le papier que j'ai l'honneur de te présenter. Maintenant, tu n'es plus qu'un débiteur sur parole. Allez, tiens, prends-le. Mais c'est toi que je ne reconnaissais pas pendant que j'avais le délire, demanda Raskolnikov après un moment de silence. Oui, oui, et même ma présence t'a occasionné des crises, surtout à la fin où j'ai amené Zametov. Zametov, le chef de la chancellerie, mais pourquoi l'as-tu amené ? En prononçant ces mots, Raskolnikov avait vivement changé de position et maintenant il tenait ses yeux fixés sur Razoumikhin. Mais qu'as-tu donc ? Mais pourquoi te troubles-tu ? Il désirait faire ta connaissance. C'est lui-même qui a voulu venir parce que nous avions beaucoup causé de toi ensemble. Autrement, de qui donc aurais-je appris tant de choses sur ton compte ? C'est un excellent garçon, mon ami. Il est merveilleux, dans son genre naturellement. À présent, nous sommes amis. Nous nous voyons presque chaque jour. Je viens en effet de transporter mes pénates dans ce quartier. Ah, tu ne le savais pas encore. J'ai déménagé tout récemment. Je suis allé 2 fois chez Louise avec lui. Tu te rappelles, Louise, Louise Ivanovna ? Ouais, j'ai battu la campagne pendant que j'avais la fièvre. Ah, je crois bien, tu ne t'appartenais plus. Et qu'est-ce que je disais ? Oh, ce que tu disais ? Oh, c'est bien ce que peut dire un homme qui n'a plus sa tête. Alors, à présent, il ne s'agit plus de perdre son temps. Occupons-nous de nos affaires. Il se leva et prit sa casquette. « Mais qu'est-ce que je disais ? Oh, tu tiens décidément à le savoir. Tu as peur d'avoir laissé échapper quelques secrets. Rassure-toi, tu n'as pas soufflé mot de la comtesse. Mais tu as beaucoup parlé d'un bulldog, de pendant d'oreilles, de chaîne de montre, de l'île Krestovski, d'un dvornik. » Nikodim Fordmitch et Ilya Pietrovitch, l'adjoint du commissaire de police, revenaient souvent aussi dans tes propos. De plus, tu étais très préoccupé d'une de tes bottes. « Donnez-la-moi » ne cessais-tu de dire en larmoyant. Zametov l'a cherché lui-même dans tous les coins, et il t'a apporté cette ordure qu'il n'avait pas craint de prendre dans ses blanches mains parfumées et couvertes de bagues. Alors seulement, tu t'es calmé, et pendant 24 heures, tu as gardé cette saleté dans tes mains. On ne pouvait pas te l'arracher, elle doit être encore quelque part sous ta couverture. Et tu demandais aussi les franges d'un pantalon, et avec quel tard, l'arme ? Nous aurions bien voulu savoir quel intérêt ces franges avaient pour toi, mais impossible de rien comprendre à tes paroles. Bon, allons maintenant à notre affaire. Voici 35 roubles, j'en prends 10, et dans 2 heures, je viendrai te rendre compte de l'emploi que j'en aurai fait. Entre-temps, je passerai chez Osimov. Il devrait être ici depuis longtemps, car il est 11 heures passées. En mon absence, Nastenka, veillez à ce que votre locataire ne manque de rien et occupez-vous notamment de lui préparer à boire. Du reste, je vais donner moi-même mes instructions à Vachenka. Au revoir. Il l'appelle Pachenka. Oh, l'affreux scélérat, fit la servante au moment où il tournait les talons. Ensuite, elle sortit et se mit à écouter derrière la porte. Mais au bout d'un instant, elle n'y put tenir et descendit elle-même à la hâte, très curieuse de savoir de quoi Razoumikhin s'entretenait avec la logeuse. Nastasia, cela était hors de doute, éprouvait une véritable admiration pour l'étudiant. À peine eut-elle refermé la porte en s'en allant, que le malade rejeta vivement sa couverture et sauta comme affolé à bas du lit. Il avait attendu avec une impatience fiévreuse le moment où il serait seul pour se mettre incontinent à la besogne. Mais à quelle besogne ? Voilà ce dont maintenant il ne se souvenait plus. « Seigneur, dis-moi seulement une chose. Savent-ils tout ou l'ignorent-ils encore ? Peut-être qu'ils savent déjà, mais ils font semblant de rien, parce que je suis malade en ce moment. Ils se réservent de jeter le masque dès qu'ils me verront rétabli. Alors ils me diront qu'ils étaient instruits de tout depuis longtemps. Mais que faire donc à présent ? C'est comme un fait d'exprès. » Je l'ai oublié, et j'y pensais encore il y a une minute. Il était debout au milieu de la chambre et regardait autour de lui, en proie à une douloureuse perplexité. Il s'approcha de la porte, l'ouvrit et prêta l'oreille. Mais ce n'était pas cela. Tout à coup, la mémoire parut lui revenir. Il courut au coin où la tapisserie s'était déchirée, introduisit sa main dans le trou et se mit à tâter. Mais ce n'était pas cela non plus. Il alla ouvrir le poêle et fouilla parmi les cendres. Les franges du pantalon et la doublure de la poche se trouvaient toujours là, comme quand elle les y avait jetées. Donc personne n'avait regardé dans le poêle. Alors il se rappela la botte dont Razoumikhine venait de lui parler. À la vérité, elle était sur le divan, sous la couverture. Mais depuis le crime, elle avait subi tant de frottements et ramassé tant de boue que sans doute Zamietov n'avait rien pu remarquer. Bah, Zamietov, le bureau de police, mais pourquoi m'appelle-t-on à ce bureau ? Où est la citation ? Ah non, bah, je confondais. C'est l'autre jour qu'on m'a fait venir. Ce jour-là aussi, j'ai examiné la botte. Mais maintenant, oh, maintenant, j'ai été malade. Mais pourquoi Zametov est-il venu ici ? Et pourquoi Zarusmikhine l'a-t-il amené ? Murmurait Raskolnikov. En se rasseyant épuisé sur le divan. Mais qu'est-ce donc qui se passe ? Ai-je toujours le délire ou bien les choses sont-elles comme je les vois ? Et il me semble que je ne rêve pas. Ah, à présent, je me rappelle, il faut partir, partir au plus vite, il faut absolument. Oui, mais où aller ? Et où sont mes vêtements ? Pas de bottes. Oh, ils les ont prises. Ils les ont cachées. Oh, je comprends. Ah, voilà mon paletot. Il a échappé à leur attention. Voilà de l'argent sur la table, grâce à Dieu. La lettre de change est là aussi. Oh, je vais prendre l'argent et je m'en irai. Je louerai un autre logement. Ils ne me trouveront pas. Oui, mais le bureau des adresses, ils me découvriront. Razoumikhine sera bien me dénicher. Il vaut mieux quitter le pays, m'en aller au loin, en Amérique. Oh là, je me moquerai d'eux. Il faut aussi emporter la lettre de change. Elle me servira là-bas. Que prendrai-je encore ? Il me croit malade. Il pense que je ne suis pas en état de marcher. J'ai lu dans leurs yeux qu'ils savent tout. Je n'ai que l'escalier à descendre. Oui, mais si la maison était gardée et si en bas, j'allais trouver des agents de police. Qu'est-ce que cela, du thé ? Oh, il est resté aussi de la bière. Cela va me rafraîchir. Il prit la bouteille, qui contenait encore la valeur d'un grand verre, et la vida d'un trait avec une véritable jouissance, car sa poitrine était en feu. Mais moins d'une minute après, la bière lui occasionna des bourdonnements dans la tête et un frisson léger, agréable même, parcourut son dos. Il se coucha et tira la couverture sur lui. Ses idées, déjà auparavant maladives et incohérentes, commencèrent à s'embrouiller de plus en plus. Bientôt, ses paupières devinrent lourdes. Il posa voluptueusement sa tête sur l'oreiller, s'enveloppa plus étroitement dans la molle couverture ouatée qui avait remplacé son méchant manteau, et s'endormit d'un profond sommeil. En entendant un bruit de pas, il se réveilla et aperçut Razumihin qui venait d'ouvrir la porte mais hésitait à pénétrer dans la chambre et restait debout sur le seuil. Raskolnikov se souleva vivement et regarda son ami de l'air d'un homme qui cherche à se rappeler quelque chose. « Oh, puisque tu ne dors plus, me voilà !»« Nastasia, monte ici le paquet !» cria Razumihin à la servante qui se trouvait en bas. « Je vais te rendre mes comptes. »« Quelle heure est-il ?» demanda le malade en promenant autour de lui un regard effaré. « Oh, tu t'en es donné, mon ami. Le jour baisse, il va être 6 heures. Ton sommeil a duré plus de 6 heures. » « Oh, Seigneur, mais comment ai-je pu dormir si longtemps ?»« De quoi te plains-tu ? Cela te fait du bien ? Quelle affaire pressante avais-tu donc ? Un rendez-vous peut-être ? À présent, tout notre temps est à nous. J'attendais ton réveil depuis 3 heures. J'ai déjà passé 2 fois chez toi, tu dormais. J'ai été aussi 2 fois chez Zosimov. Il était absent, mais n'importe, il viendra. En outre, j'ai eu à m'occuper pour mon propre compte. J'ai changé de domicile aujourd'hui et il m'a fallu tout déménager, y compris mon oncle. C'est que, vois-tu, j'ai à présent mon oncle chez moi. Bon, allons, assez causé, maintenant à notre affaire. Donne ici le paquet, Nastasia. Nous allons tout de suite... « Mais comment te sens-tu, mon ami ?»« Bon, je me porte bien, je ne suis pas malade. »« Razumihin, il y a longtemps que tu es ici. »« Je viens de te dire que j'attendais ton réveil depuis 3 heures. »« Non, mais avant. »« Comment avant ?»« Non, mais depuis quand viens-tu ici ?» « Mais voyons, je te l'ai dit tantôt, est-ce que tu ne m'en souviens plus ?» Raskolnikov fit appel à ses souvenirs. Les incidents de la journée lui apparaissaient comme dans un songe. Ses efforts de mémoire restant infructueux, il interrogea du regard Razumihin. « Hum, fit celui-ci, mais tu l'as oublié. J'avais déjà remarqué tantôt... que tu n'étais pas encore dans ton assiette. À présent, le sommeil t'a fait du bien. Pas vraiment, tu as beaucoup meilleure mine. Allons, qu'importe. Cela va te revenir tout à l'heure. Regarde donc par ici, cher homme. » Il se mit à défaire le paquet, qui évidemment était l'objet de toutes ses préoccupations. Cela, mon ami, me tenait particulièrement à cœur. C'est qu'il faut faire de toi un homme. Nous allons nous y mettre. Commençons par le haut. Vois-tu cette casquette ? Dit-il en prenant dans le paquet une casquette assez jolie, quoique fort ordinaire et de peu de valeur. Veux-tu me permettre de te l'essayer ? Oh non, pas maintenant, plus tard, dit Raskolnikov. En repoussant son ami avec un geste d'impatience. « Non, tout de suite, ami Rodia. Laisse-toi faire. Plus tard, il serait trop tard. D'ailleurs, l'inquiétude me tiendrait éveillé toute la nuit, car j'ai acheté au jugé, n'ayant pas la mesure de ta tête. « Oh, elle va parfaitement !» s'écria-t-il triomphant, après avoir essayé la casquette à la Raskolnikov. « Mais c'est tout à fait cela, on jurait qu'elle a été faite sur commande. Devine un peu ce que je l'ai payé, Nastasiushka ?» dit-il à la servante en voyant que son ami gardait le silence. « Bon, deux grivnas, sans doute, » répondit Nastasia. « Deux grivnas, tu es folle !» récria Razoutsmikhin, vexé. « À présent, pour deux grivnas, on ne pourrait même pas l'acheter. Huit grivnas. Et encore, c'est parce qu'elle a été déjà portée. Et passons maintenant à la culotte. Je te préviens que j'en suis fier. » Sur ce, il étala devant Raskolnikov un pantalon gris d'une légère étoffe d'été. Non, pas un trou, pas une tache, et très métable, quoiqu'il ait aussi été porté. Le gilet est de la même couleur que le pantalon, comme l'exige la mode. Du reste, si ses effets ne sont pas neufs, à dire vrai, ils n'en sont que meilleurs. Ils ont acquis par l'usage plus de douceur, plus de moelleux. Vois-tu, Rodia, selon moi, pour faire son chemin dans le monde, il faut toujours se régler sur la saison. Les gens raisonnables ne mangent pas d'asperges au mois de janvier. J'ai suivi ce principe dans mes emplettes. Nous sommes en été, j'ai donc acheté des vêtements d'été. Vienne l'automne, il te faudra donc des vêtements plus chauds. Et tu abandonneras ceci, d'autant plus que, d'ici là, ils auront eu le temps de s'user. Eh bien, devine ce que cela a coûté. Combien, selon toi ? 2 roubles 25 kopecks. Bon, à présent, parlons des bottes. Comment les trouves-tu? On voit qu'elles ont déjà été portées, mais elles feront encore très bien leur office pendant 2 mois, parce qu'elles ont été confectionnées à l'étranger. Un secrétaire de l'ambassade britannique s'en est défait la semaine dernière. Il ne les avait que depuis 6 jours, mais il était très à court d'argent. « Prix, 1 rouble 50 kopecks. Mais c'est pour rien. »« Mais ils n'iront peut-être pas à son pied, » observa Anastasia. « Elles n'iront pas à son pied. Et cela, qu'est-ce que c'est ?» répliqua Razoutsmikhin en tirant de sa poche une vieille botte de Raskolnikov, laquelle était toute trouée et toute sale. « J'avais pris mes précautions. » Ils ont relevé la mesure sur cette horreur. Tout cela a été fait très consciencieusement, mais pour le linge, il y a eu du tirage avec la marchande. Enfin, tu as là 3 chemises de toile avec des devants à la mode. Bon, maintenant, récapitulons. Casquette, 8 grivnas. Pantalon et gilet, 2 roubles 25 kopecks. Bottes, 1 rouble 50 kopecks. Linge, 5 roubles. Total, 9 roubles 55 kopecks. J'ai donc à te remettre 45 kopecks. Tiens, prends-les. Et de la sorte, te voilà tout requinqué, car à mon avis, ton paletot non seulement peut encore servir, mais possède beaucoup de distinctions. On voit qu'il a été fait chez Charmeur. Pour ce qui est des chaussettes, etc., je t'ai laissé le soin de les acheter toi-même. Il nous reste 25 roubles et tu n'as pas à t'inquiéter de Pachenka ni du paiement de ton loyer. Je te l'ai dit, on te fait un crédit illimité. À présent, mon ami, permets qu'on te change de linge. C'est nécessaire car la maladie est dans ta chemise. « Oh, laisse-moi donc, je ne veux pas !» répondit en le repoussant Raskolnikov, dont le visage était resté morne tant qu'avait duré le récit enjoué de Razoumikhin. « Mais il le faut, mon ami, mais pourquoi donc j'ai éjaculé mes bottes ?» insista ce dernier. « Nastasiushka, ne faites pas la prude et venez à mon aide, là !» Et malgré la résistance de Raskolnikov, Il réussit à le changer de linge. Le malade retomba sur son oreiller et ne dit pas un mot pendant 2 minutes. Est-ce qu'ils ne vont pas, à la fin, me laisser en repos? Pensait-il. Avec quel argent tout cela a-t-il été acheté? Demanda-t-il ensuite en regardant le mur. Ah, voilà une question. Avec ton propre argent? Ta maman t'a fait envoyer par Varkhushin 35 roubles qui t'ont été apportés tantôt. Est-ce que tu l'as oublié? Ah, à présent, je m'en souviens, dit Raskolnikov après être resté pensif et sombre pendant assez longtemps. Razoumikhin, les sourcils froncés, le considérait avec inquiétude. La porte s'ouvrit et un homme de haute taille entra dans la chambre. Sa façon de se présenter indiquait à un visiteur accoutumé de Raskolnikov. « Ah, Zosimov, enfin !» s'écria joyeusement Razoumikhin.